Pour cette présentation et pour développer ces deux aspects autour du plurilinguisme et de la multimodalité, je me suis aussi appuyée, parce que moi-même, je n'ai pas de corpus en maternelle, encore en tout cas, je me suis appuyée sur un autre travail de mémoire d'une autre étudiante qui a travaillé sur ces questions-là. Donc c'est Marine Santos qui a soutenu son mémoire en 2014, précisément sur la construction langagière en lien avec le bilinguisme en petite section. Donc elle était en classe de petite section, elle était PES, donc alternante, et elle s'est retrouvée dans sa classe de petite section, dans une classe du 3e arrondissement à Lyon, avec un élève, alors elle avec 8 élèves hein, sur 28 qui évoluaient dans un univers plurilingue. Notamment avec des langues comme le roumain, l'italien, le tunisien, le coréen, le vietnamien et donc le portugais pour cet élève qu'elle a plus particulièrement suivi. Et sa question, puisque les mémoires de recherche dans le cadre des Master MEF partent d'une problématique qui sont ancrées dans leur pratique professionnelle, elle s'est intéressée donc à cet élève-là qui s'appelle Florent et qui venait juste d'arriver en France. En quoi les différentes interactions jouent un rôle dans le processus de construction d'une identité métissée d'un élève bilingue à l'école maternelle. Donc le petit Florent, la maman ne parle pas français en arrivant en France. Donc il venait juste d'arriver en France fin août. Le papa, lui, parle français et accompagne, en tout cas au début de l'année, souvent la maman pour pouvoir traduire. Cette étudiante a recueilli ses données sous deux formes, à la fois un journal de terrain, donc où elle a pris des notes sur le comportement de Florent, à la fois ses gestes, ses paroles, et elle a aussi fait des enregistrements vidéo d'interactions entre Florent et ses camarades, ou Florent et la maîtresse, et notamment elle s'est beaucoup centrée sur deux espaces, hein, les coins jeux, donc au moment de l'accueil, hein, on a parlé de l'importance de ces moments-là, et les moments de regroupement par rapport au langage. Alors, le premier extrait sur lequel je voulais revenir, c'est un extrait qui est issu du début de l'année, donc novembre, et c'est vraiment à l'accueil, au moment où le papa et la maman viennent déposer, amener à l'école le petit Florent. Donc sa langue maternelle, L1, c'est le portugais. Donc là, vous voyez un tout petit extrait d'interaction où il y a le papa qui dit « Donne-moi le manteau ». Florent, c'est la photo aujourd'hui. Donc il s'exprime en français. Il y a eu un moment au début où il parlait portugais. Et là, il y a Florent, on voit juste L1, puisque l'étudiante a pris le parti pris. Elle ne parlait pas portugais elle-même. Elle a pris son parti pris, c'était de mettre dans la transcription L1, et elle n'a pas fait traduire. Hein. Elle aurait pu, mais elle a préféré ne pas le faire. Donc Florent dit quelque chose en langue maternelle. Le papa dit oui, va mettre ta photo à l'école. Florent, de nouveau, s'adresse en portugais. Mais il prend sa photo et il la montre à papa. Et puis là, papa dit oui, c'est bien, au revoir Florent, à tout à l'heure. Et là, Florent fait signe à ses parents en agitant son étiquette prénom. Et là, premier mot en français, Florent dit oui. Donc on voit qu'il passe là au français, langue de scolarisation. Et puis c'est la maman qui termine cette petite interaction et qui dit en français bisous, avec une intonation montante apparemment. Peut-être que c'était une demande de bisous. La maman embrasse Florent. Et là, elle-même repasse au portugais. On peut imaginer que c'était au moment de la séparation qu'elle repasse au portugais pour des raisons affectives. Donc là, ce qui est très intéressant dans ce tout petit moment d'interaction et assez typique hein, de ce moment d'accueil, c'est qu'on voit très bien que, on en a déjà parlé tout à l'heure, qu'il s'agit bien d'une co-construction et que alors, les parents, là, font l'effort, je ne sais pas si on peut dire ça, de s'adresser à l'enfant en français à ce moment-là en arrivant à l'école. Mais ils utilisent aussi le portugais. Et l'enfant, on voit bien qu'il est entre les deux, entre le portugais et le français. On n'a pas ici de moment avec l'enseignante parce que l'extrait était trop long. Mais l'enseignante accepte tout à fait ces moments où il parle portugais et lui répond français, en français. Un autre extrait donc du même corpus où là l'enseignante va dire dans la classe, alors là on est à l'épisode 6, donc on a fait un bond dans l'année, c'est au mois de mars. Elle dit cette chanson, elle est chantée dans une autre langue que le français, donc on est dans un moment d'apprentissage, elle est chantée dans la langue de Florent. Florent, tu peux nous dire quelle langue tu parles à la maison avec maman et papa ? Florent fait oui de la tête. Il regarde les autres élèves. Là, il s'adresse en portugais. Et l'enseignante dit « Eh oui, Florent, il parle une autre langue. » Et là, la classe dit « Oui ». Florent sourit et se tourne vers l'élève assis à côté de lui et lui montre sa langue. Alors, ce qui est marrant, c'est qu'au moment où c'est arrivé, l'enseignante ne l'a pas vu, ça. Elle l'a découvert ensuite sur son corpus en analysant ses vidéos. Donc là, on voit aussi, un peu comme dans l'exemple d'Iseu, je crois, qu'effectivement, dans ces interactions, tout ce qui est non-verbal, et je vais y revenir juste après, est intégré dans la conversation, et tout ce qui est langue maternelle aussi. Il n'y a pas le flux de l'interaction continue, et la maîtresse accepte ces différents éléments. Un autre moment de ce corpus, où là c'est au mois de janvier, même si c'est l'épisode 5, un autre moment d'apprentissage ici autour d'un album, où là l'enseignante dit « Oui, et c'est qui lui ?» Et l'enseignante montre l'image de l'ours. Et Florent dit « ours », le seul mot qu'il dit en français. Ensuite, il parle en portugais. Mais il montre l'image du renard. L'enseignante dit « Oui, très bien. Et il fait quoi, le renard ?» Et là, Florent regarde l'enseignante et il reproduit le son que fait la voix de Laura Albom lorsque le renard mange la galette et il place sa main à sa bouche comme s'il allait manger quelque chose. L'enseignante dit « Oui, mais avant la galette. » Mais avant la galette, elle lui monte sur le... et elle montre le nez. Et là, Florent dit « son nez ». Et du coup, il utilise le français. Et là, ce qui me paraissait aussi très intéressant, c'est que si vous regardez ces interactions, on voulait évaluer cet enfant et les productions orales de cet enfant, il dit deux mots en français. Il dit « oui » et il dit « son nez », par rapport à ce qu'on peut imaginer des autres enfants de petite section au mois de janvier qu'ils vont dire sur cet album. Mais l'enseignante, pour autant, elle prend en compte ce qu'il dit, elle prend en compte le non-verbal, le fait qu'il montre comme des compétences en tout cas de réception, de compréhension. Et là encore, l'interaction continue de se faire, même s'il y a encore de la langue maternelle et s'il y a du non-verbal. Donc là, je voulais préciser par rapport aux éléments du bilinguisme et du plurilinguisme que le langage se développe dès le plus jeune âge et il est en perpétuelle construction tout au long de la vie. Et les différents apports par rapport à ce langage vont être aussi bien sociaux, culturels, comportementaux ou linguistiques. Ces apports-là vont modifier le langage. Et je voulais montrer ici une des définitions sur le bilinguisme de François Grosjean, qui est un sociolinguiste réputé sur ces questions-là, qui définit la personne bilingue comme étant obligée d'interagir avec le monde qui l'entoure à l'aide de deux langues ou plus. Et on voit bien dans ce tout petit extrait de tout à l'heure que l'enfant, il se retrouve obligé d'interagir à la fois avec le portugais et le français, même si c'est juste avec quelques mots. Donc l'élève allophone, il va développer ainsi à travers son bilinguisme une double compétence communicationnelle et des compétences plurilingues. Et c'est ce que les sociolinguistes et les didacticiens des langues vont appeler la socialisation bilingue. On avait un exemple tout à l'heure aussi. Et dans l'extrait ici du carnet de terrain donc, de l'étudiante, qui dit « il pleurait et semblait se plaindre, il ne faisait pas de gestes », donc ça date du mois de novembre, le tout début de l'année scolaire, « je ne pouvais pas comprendre, il m'a dit en français « fait mal et tapé » et m'a ensuite désigné l'élève en question, il a compris que je ne pouvais pas le comprendre et qu'il fallait parler français ». Là, on voit bien que ça rejoint cette définition du bilingue qui est obligé et qui va interagir dans les deux langues. Et ce qui me semble important, et qui a aussi déjà été dit notamment par Catherine, c'est que examiner la construction langagière donc dans le cadre du plurilinguisme, c'est aussi avec l'objectif de changer le regard des acteurs de l'éducation en général. Et comme on l'a dit aussi, pas seulement les enseignants, les acteurs de manière générale, que ça peut être en crèche, ça peut être les ASEM, ça peut être les animateurs en périscolaire, etc. Et que plutôt que d'envisager l'élève allophone en considérant ce qui lui manque, la langue de scolarisation, c'est de comprendre qu'il se construit et qu'il construit son langage dans deux ou même plusieurs langues en même temps, et que ce langage en deux ou trois langues différentes ne va pas se développer à la même vitesse que l'enfant monolingue, que ces compétences pourront être partielles en fonction de chacune de ces langues, mais qu'il est intéressant de considérer la somme de ces compétences partielles et de reconnaître ces compétences comme un atout, comme une richesse.